VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Bagassi Koura et Jean-Roger Bion, en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du jeudi 12 mai 2016. Voyons ce qui fait l'actualité ce matin.
Attaque terroriste au Mali, deux militaires ont été tués dans une embuscade dans le nord.
C'est une décision de la Cour constitutionnelle en RDC. Joseph Kabila restera au pouvoir si l'élection présidentielle n'a pas lieu cette année.
Au Tchad, certains agents de l'État qui exerçaient un double emploi verront le tiers de leur salaire coupé pour rembourser ce qu'ils ont gagné en travaillant ailleurs.
Et si un fonctionnaire de l'État qui se transforme en gardien de nuit pour subvenir aux besoins de sa famille, même l'État djadé n'a pas honte.
En RCA, première commémoration hier de la journée nationale des victimes des conflits dans le pays.
Oui, nous voulons ce que la réparation soit faite, la réparation surtout, la justice. Et comme ça, il y aura vraiment la paix durable.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Oui, cette attaque terroriste au Mali, le chef adjoint de la région militaire de Gao dans le nord du pays et un frère d'armes ont été tués lorsque leur escorte est tombée dans une embuscade sur l'axe Gossi-Ambori dans le sud-ouest de Gao, chef-lieu de région et plus grande ville du nord malien. Plus de précisions avec Kassim Traoré.
C'est au cours d'une de ces escortes traditionnelles qu'un convoi de l'armée malienne est tombé dans une embuscade, quelques minutes seulement après avoir quitté Gossi pour Ambori. L'un des véhicules de l'armée malienne a même sauté sur une mine. C'est dans ce véhicule que se trouvait le colonel Salif Babadao de la garde nationale, lui qui avait quitté Bamako le mercredi 11 mai 2016 pour Gao. Le bilan est de 2 morts du côté des militaires maliens. Tous les blessés ont été évacués sur Gao pour suivre des soins intenses. Les assaillants qui ont commis ce forfait étaient tous sur des motos dans une course engagée aux côtés du convoi. Le dit convoi a également essuyé des tirs. Aucune identité des assaillants n'a été connue, mais l'armée malienne continue de mener des investigations. A rappelé que dans la nuit du lundi au mardi, c'est un autre camp de l'armée malienne qui a été attaqué à Bamba, dans la région de Gao. Un militaire et un assaillant ont été tués. Les assaillants voulaient s'emparer des armements des soldats maliens, mais malheureusement, ils sont repartis bredouille. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La ministre ivoirienne de la cohésion sociale, Maria Tukone, a entamé hier une visite au Ghana. L'objectif, rassurer des milliers d'exilés pro-Gbagbo pour qu'ils reviennent au pays. Mélisse Hegel.
Avant le Ghana, la ministre ivoirienne Maria Tukone avait séjourné du 3 au 7 mai au Libéria, qui accueille des milliers de réfugiés ivoiriens depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Elle a expliqué qu'elle vient dire à ses frères qu'ils ne risquent rien à leur retour en Côte d'Ivoire. Il y a environ 58 000 réfugiés ivoiriens au Libéria et près de 10 000 au Ghana, pour la plupart des exilés politiques. Leur retour est devenu un enjeu pour la réconciliation nationale si chère au président Alassane Ouattara. Le 11 avril, au Ghana, la mort en exil de l'homme politique Mamadou Ben Soumaoro avait suscité une vive émotion, poussant le gouvernement à faire plus d'efforts. Le mois dernier, Mgr Siméon Awana, président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, avait tiré la sonnette d'alarme, disant que le malaise est profond et qu'il convient de mettre un accent particulier sur les initiatives en faveur de la réconciliation.
5 ans de prison ont été requis mercredi contre un imam sénégalais. C'est ce que rapporte l'agence France Presse, précisant que l'imam Ibrahima Sey, en détention depuis 7 mois, est poursuivi pour apologie du terrorisme. Il a comparu hier à Kolda, dans le sud du Sénégal, professeur d'histoire-géographie dans un lycée de cette ville. Il fait partie de la dizaine de personnes, dont plusieurs imams comme lui, arrêtés en octobre pour affinité avérée avec ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et l'État islamique, selon une source de sécurité sénégalaise.
Et toujours au Sénégal, le festival annuel de jazz de Saint-Louis a commencé hier sous haute surveillance. L'événement, qui se tiendra jusqu'au 16 mai, a été à l'origine d'une brève interdiction par le préfet qui craignait pour la sécurité. Près de 600 hommes ont été déployés pour garantir la sécurité de la fête musicale. Alex Tandeng est chargé de la communication du festival de jazz de Saint-Louis du Sénégal.
C'est une atmosphère de grands moments, de grands événements, une atmosphère de retrouvailles, d'ambiance, d'enthousiasme et beaucoup de joie qui se lit à travers en fait, le visage de tous les Saint-Louisiens, de tous ceux qui ont voulu faire le déplacement pour cette 24e édition du Festival international de jazz. Certainement, vous êtes en train de percevoir l'ambiance tout autour pour laquelle, effectivement, nous nous sommes battus pour pouvoir démarrer en fait, les premières notes de ce festival aujourd'hui, 11, coïncidant avec l'anniversaire de Bob Marley. Sur les plateaux pour aujourd'hui, nous avons Sao. Sao, c'est un jeune prodige de la musique sénégalaise africaine, mondiale un peu, qui fait en fait un gros tabac aujourd'hui. Également pour ce soir, il était prévu en fait un concert de Bob Marley, mais malheureusement qui se tiendra pas. À sa place, il y aura Pinchel. Après, nous aurons Lunette Diallo. Le festival durera jusqu'au lundi, c'est-à-dire tout le week-end de la Pentecôte.
Alex Tandeng du Festival de Jazz de Saint-Louis.
Hausse des salaires des fonctionnaires au Burkina Faso. La bonne nouvelle a été annoncée hier à l'issue de l'hebdomadaire au Conseil des ministres. Selon le ministre de la Fonction publique, Clément Savadogo, cette hausse dont on n'a pas encore tous les détails prendra en compte des salaires depuis le 1er janvier 2016. Le gouvernement a aussi annoncé la suppression du statut des contractuels de l'État. Ceux-ci, dont le nombre n'a pas été précisé, deviennent tous des fonctionnaires. Cette mesure d'augmentation va coûter au budget de l'État près de 21 milliards de francs CFA.
Prestation de serment ce jeudi du président ougandais Yoweri Museveni, réélu au mois de février. Hier, la police a interpellé l'opposant et candidat malheureux Kizza Besigye, qui avait organisé sa propre prestation de serment à Kampala. Les précisions, Nani Talani.
Arrivé au pouvoir par coup d'État en 1986, Yoweri Museveni, qui est âgé de 71 ans, entame ce jour son cinquième mandat. La commission électorale ougandaise l'avait proclamé vainqueur de la présidentielle de février avec 60% des voix contre 35% à son adversaire Kizza Besigye, leader du Forum pour le changement démocratique, des résultats que ce dernier a rejetés, faisant état de fraude massive. Depuis lors, la police a dispersé plusieurs manifestations de ses partisans, la dernière mercredi, au cours de laquelle Besigye s'est fait investir président. Pour le porte-parole de la police ougandaise, Patrick Onyango, il s'agissait de la violation d'une décision de justice interdisant à Besigye de prendre part à des manifestations. Ces derniers jours, des unités de l'armée et la police patrouillaient les rues de Kampala sur la base de soupçons que les militants de l'opposition pourraient tenter de perturber la prestation de serment du président Museveni.
Le colonel Azali Assoumani, ex-poutiste, a été élu président des Comores à l'issue d'une élection présidentielle partielle dans des bureaux où le second tour avait été entaché de violence, selon des résultats provisoires rendus publics aujourd'hui par la commission électorale. Le colonel Assoumani a obtenu 2271 voix contre 1308 pour son rival. Le candidat du pouvoir sortant, Mohamed Ali Swahili, et a ainsi accentué l'avance qu'il avait obtenue après le deuxième tour de la présidentielle en avril.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La présidente brésilienne Dilma Rousseff s'apprête à céder le pouvoir à son vice-président Michel Temer après l'ouverture inéluctable de son procès en destitution par le Sénat attendu à l'aube. Avant le vote électronique final des sénateurs brésiliens, il ne faisait déjà plus aucun doute qu'une majorité simple de 41 votes serait réunie pour ouvrir le procès de Mme Rousseff et l'écarter du pouvoir pendant un maximum de 180 jours en attendant leur jugement final. Dilma Rousseff est accusée, vous le savez, de maquillage de comptes publics.
Au Canada, l'immense feu de forêt qui a forcé l'évacuation de la ville pétrolière de Fort McMurray et des alentours était toujours hors de contrôle à la date d'hier. Selon l'AFP, sa progression a été freinée par un temps plus frais et plus rapide et plus humide. Environ la moitié des 1550 pompiers de la province combattaient ce feu qui a dévasté plus de 2290 km² de forêt depuis 10 jours, en plus de détruire 2400 maisons à Fort McMurray dans la région, nécessitant l'évacuation de près de 100 000 personnes.
Le président élu des Philippines, Rodrigo Duterte, prévoit de se rendre au Vatican pour présenter personnellement ses excuses au pape pour l'avoir qualifié de fils de pute. C'est ce qu'indique son porte-parole cité par l'AFP. Par ailleurs, le dirigeant de la rébellion communiste philippine, José María Sison, a exprimé mercredi l'espoir de pouvoir rentrer au pays après près de 30 ans d'exil grâce à l'élection à la présidence de Rodrigo Duterte. José Sison, âgé de 77 ans, avait fui les Philippines pour l'Europe en 1987. Après l'échec de négociations de paix, tandis que la rébellion continuait de faire des milliers de morts dans l'archipel.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec John Linden.
Le gouvernement burkinabé incite la jeunesse à se lancer dans l'agriculture, présenté comme un secteur porteur d'emplois. Dans une tribune publiée dans tous les quotidiens du pays et diffusée dans les radios, le gouvernement assure vouloir marquer une rupture dans le regard de la société sur les activités agricoles considérées jadis comme le dernier recours des hommes et des femmes ayant tout essayé en vain dans leur vie. Selon des statistiques officielles, les jeunes de moins de 30 ans représentent jusqu'à 60% de la population. Plus de 500 membres des délégations africaines et internationales sont attendus à Yaoundé, la capitale camerounaise, du 17 au 18 mai prochain. Ce sera dans le cadre de la Conférence économique internationale sur les opportunités d'investissement au Cameroun. À l'initiative du gouvernement, cette conférence, dont le thème est « Investir au Cameroun, terre d'attractivité », a pour objectif de présenter aux hommes d'affaires, industriels, entrepreneurs, décideurs et financiers venus d'Afrique et du monde, les opportunités d'investissement au Cameroun. L'ONEPAD, l'agence d'exécution de l'Union africaine, vient d'annoncer le lancement de Move Africa, une initiative qui vise à soutenir la transformation du commerce intra-africain en aidant à résoudre les obstacles immatériels au développement des infrastructures et des échanges transfrontaliers en Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports. On retrouve Eric Manirakiza pour cette page des sports. Eric, on commence par du football. Patrick Ekeng souffrait de problèmes cardiaques.
Le milieu de terrain camerounais, décédé brutalement après un malaise vendredi en plein match à Bucarest, souffrait de problèmes cardiaques sérieux, selon les premiers résultats de l'autopsie révélés par l'Institut médico-légal de Bucarest. Le milieu de terrain du club du Dynamo Bucarest souffrait de cardiomégalie, cœur volumineux, résultant d'une hypertrophie du ventricule gauche et présentait plusieurs anomalies coronariennes, a indiqué le club. Le Dynamo Bucarest a décidé de retirer de l'équipe le maillot avec le numéro 14 que portait Patrick Ekeng et le club qui doit affronter mardi le CFR Club en finale de la Coupe de Roumanie a promis en cas de victoire de faire don du trophée à la famille du joueur.
En cyclisme, le Tour du Bénin est parti hier.
Oui, le cycliste ivoirien Bachirou Konté est arrivé premier lors de cette première étape du 13e Tour du Bénin couru entre Parakou et Savelong de 160 km. Les détails avec Élisée Oumpatin sur place pour VOA Afrique.
L'Ivoirien s'impose au sprint et s'empare du coup du maillot jaune. Il dévance de rien le Belge Stijn Van Cooter et le Togolais Raouf Akanga qui termine troisième. Bachirou Konté veut remporter ce tour qu'il a échappé de justesse l'année dernière.
Déjà une échappée avec moi et le Belge et un Burkinabé. Il y a une dizaine de coureurs qui vient à l'avant de la course pour nous rejoindre. Et après, on a commencé à s'attaquer, moi et le Belge. On est resté que 10 coureurs à l'avant. À 1 km, il y a eu des attaques. Et là, j'ai réagi et la victoire me revient. On est venu chercher ce tour. Les 4 étapes qui restent à venir sont dues. On va se battre.
Et pour y arriver, il faudra donc remporter la deuxième étape ce jeudi entre Dassa et Boïcon, longue de 80 km. Élisée Rumpati, Savet, VO Afrique.
Et enfin avec toi, Bagassi, la NBA, championnat du basketball nord-américain.
Oui, le champion NBA en titre Golden State s'est qualifié pour la finale de la Conférence Ouest, l'équivalent des demi-finales des playoffs, en remportant sa quatrième victoire contre Portland, 125-121. Les Warriors se sont imposés 4-1. En finale de conférence, Golden State sera opposé soit à San Antonio, soit à Oklahoma City. Les Toronto Raptors ont repris l'ascendant face aux Miami Heat en remportant le match numéro 5, 99-91 de leur duel des demi-finales de la conférence Est des playoffs. Les Canadiens mènent 3-2. Toronto n'a jamais dépassé le stade des demi-finales de conférence et s'était arrêté à ce stade de la compétition, on se rappelle, en 2001 contre Philadelphie, 4-3.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Allez, Bagassi Koura de retour avec vous. Place maintenant au dossier du jour. On commence par la RDC où la Cour constitutionnelle a tranché. Joseph Kabila restera au pouvoir si l'élection présidentielle n'a pas lieu cette année. Des réactions continuent donc à être enregistrées suite à cet arrêt, comme celle d'Eve Bazaïba Massoudi. Elle est secrétaire générale du MLC. Le MLC, c'est le parti de Jean-Pierre Bemba.
Si l'élection présidentielle n'est pas convoquée le 20 septembre et que le 19 septembre, comme a dit la Cour, le 19 décembre, le président demain, jusqu'au 20 décembre, nous allons le considérer comme quelqu'un qui aura procédé à un coup d'État constitutionnel. Nous allons nous assumer et nous allons appliquer l'article 134 parce qu'il aura intentionnellement violé la Constitution. Il sera passible de trahison conformément à l'article 165 de la Constitution qui est libellé clairement que si le président de la République viole intentionnellement la Constitution, il sera poursuivi de haute trahison. C'est le plus simple que ça. C'est du français que nous parlons.
Mais c'est la Cour constitutionnelle qui devrait le poursuivre et qui s'est prononcée déjà.
La Cour constitutionnelle s'est prononcée. La Cour constitutionnelle n'est pas Dieu. La Cour constitutionnelle est constituée de 9 membres qui sont sous la coupe du président de la République. Je vous ai dit que c'est totalement clair. Ils le savent. Et la Cour constitutionnelle et tous ceux qui auront amené les chefs de l'État qui avaient prêté serment d'observer et de faire observer la Constitution, qui vont l'amener maintenant dans la violation de la Constitution, nous allons les mettre tous dans un même paquet. Nous n'allons pas nous laisser faire. On n'est pas de marche-pied. Le Congo n'appartient pas à un individu, c'est-à-dire la soit-il. Le Congo appartient à plus de 80 millions de Congolais et qui sont unis par la Constitution. Il y a des dispositions intangibles qui ne sont pas créées, on ne peut pas y toucher.
Mais il y a un dialogue qui est en préparation, justement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une voie pour apaiser ou résoudre ces contentieux?
Le dialogue ne dépasse pas la Constitution. La Constitution n'a pas besoin de dialogue pour être respectée. Quand on dit un oui, votre oui, soit oui, là on est en face de quelqu'un qui ne reconnaît pas son engagement. C'est un parjure, c'est une question de parjure. Il a prêté serment et il ne respecte pas son serment. On va dialoguer pourquoi? Pour lui donner le prix, la prime de ne pas respecter son serment. Lui donner la prime, lui est en train de diriger le pays. Il a été incapable de diriger le pays jusqu'à préparer les élections parce que le gouvernement se prévoit. On va lui donner une prime. Après le dialogue, ça n'a pas de sens.
Voilà, c'était Eve Bazaïba Massoudi, secrétaire générale du Mouvement de Libération du Congo, le parti de Jean-Pierre Bemba. Ses propos ont été recueillis par Eddie Isango.
Dans Washington Forum cette semaine, la République démocratique du Congo est le bras de fer entre la société civile qui veut empêcher Joseph Kabila de briguer un troisième mandat et le pouvoir. Climat tendu aussi avec l'opposition et la récente audition devant la justice de Moïse Katumbi. À quand la tenue d'élections? Quelles seraient les conséquences d'un report? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
En République centrafricaine, commémoration hier de la première journée nationale des victimes des conflits dans ce pays. À Bangui, la cérémonie a été présidée par le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandji en présence des victimes, de leurs parents et des représentants étrangers, mais aussi de notre correspondant Freeman Sipila.
Un moment de fortes émotions marqué par une oraison funèbre suivi des dépôts des gerbes de fleurs sur le monument des martyrs. Une première en Centrafrique pour se souvenir des hommes, des femmes et des enfants victimes des années de conflit dans le pays. Le premier ministre centrafricain Mathieu Simplice Sarandji, larmes aux yeux, n'a pu retenir ses émotions.
Émotion d'abord, avant de penser aux victimes. Émotion, grande émotion à cette première phase de la commémoration des victimes.
Cette célébration, une occasion aussi pour les victimes de faire entendre leur voix, car disent-elles, elles ont été oubliées après la crise. Francine Demadé est dans une association des victimes du 4e arrondissement de Bangui. Deux de ses enfants ainsi que son beau-fils ont été froidement abattus en décembre 2013 par des ex-sélicats.
Ce moment nous a réjouis un peu. parce que ils se sont souvenus de ce que on a vécu pendant les événements dans notre pays. Je pourrais dire que c'est un moment pour porter nos voix, pour que les membres du gouvernement et le président de la République centrafricaine puissent écouter nos voix. Parce que depuis, après les crises là, on est oubliés. Nous les victimes, nous sommes oubliés.
Certaines victimes expliquent n'avoir pas été mises au courant de cette journée. Toutefois, leur préoccupation principale demeure justice et réparation, comme l'explique Francine.
Oui, nous voulons ce que la réparation soit faite. La réparation surtout, la justice. Et comme ça, il y aura vraiment la paix durable. Je prends l'exemple sur moi. J'ai mis au monde des enfants, je les ai élevés. Et puis à l'âge de 21 ans, 19 ans, j'ai perdu subitement mes deux enfants. Nos enfants sont nos avenirs. Si je deviens une vieille aujourd'hui, ce sont mes enfants qui vont prendre soin de moi. Et si on ne me dit pas quelque chose, on ne me fait pas quelque chose qui peut me rassurer, qui peut me garantir, qui peut m'apaisantir, d'oublier ce que j'ai vécu là. Mais comment la paix peut être durable?
Aujourd'hui, que compte faire le gouvernement pour les victimes de ces conflits? Le Premier ministre Simplice Mathieu Sarrandi tente d'apporter une réponse.
Tout d'abord, ce que nous avons à leur donner, c'est notre amour. Nous leur donnons d'abord notre amour. Le reste, le gouvernement que je dirige n'est pas insensible à la situation de ceux de nos frères, de celles de nos sœurs qui sont des victimes. Quand on dit victimes, on pense à la souffrance qu'ils ont eu à endurer. Tout ce que nous avons à leur dire avant de passer véritablement au côté matériel, au côté financier, c'est ceci. Courage, 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 car nous sommes toujours avec eux.
La commémoration de cette journée est l'une des recommandations du Forum national de Bangui, tenu du 4 au 11 mai 2015. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM.
Voilà, retournons un instant sur cette décision du ministère des Finances au Tchad concernant certains agents de l'État qui exerçaient un double emploi. Désormais, ils verront le tiers de leur salaire mensuel retenu pour rembourser ce qu'ils ont gagné pendant qu'ils ont été intégrés et qu'il continuait toujours dans le privé. On fait le point avec André Kodmadjingar.
Au cours d'un point de presse tenu ce mercredi à N'Djamena, le collectif des enseignants frappés par cette décision se dit surpris de la publication de la liste des 402 agents de l'État présumés en position de double emploi par le ministère des Finances et du Budget. Ces agents qui avaient double emploi sont soumis de rembourser à l'État tchadien les salaires indus perçus depuis la date de leur intégration à la fonction publique jusqu'à la cessation des activités dans le privé. Le porte-parole du dit collectif, Natoy Alaringar, trouve cette décision inadmissible.
Certains parmi nous sont déjà paralysés, d'autres commencent à devenir fous et certains sont morts. Alors imaginez, ce n'est pas quand même digne d'un fonctionnaire d'être traité de la sorte. Parler de double emploi, même d'abord, c'est faux. Si seulement ces fonctionnaires émergent deux fois sur le compte de l'État, on peut parler d'un double emploi. Mais quelqu'un il travaille sur le compte de l'État comme un enseignant, le plus souvent, de 7 à 12 heures, les gens sont dans les établissements, ça dépend du lycée ou quelque chose comme ça. Mais de 15 heures jusqu'à, je sais pas, jusqu'à X heures, ça c'est du temps libre. Et chacun puisse vraiment se battre pour joindre les deux bouts, puisque le salaire de l'État ne suffit pas. Et maintenant, on dit on va amputer les un tiers de vos salaires. Il y a des fonctionnaires qui gagnent 150 000 par mois. Et il a des crédits à la banque. Peut-être la banque lui coupe 50 000. Il a 100 000. Et dans les 100 000, on coupe 50 000. Ça va lui faire 5. Imaginez, c'est vrai de louer la maison. Une maison en Djamena coûte au moins 30 000. Le sable 10 000, c'est à 25 000. Il y a une certaine de vie. Avec un 50 000 par combien un ancien peut vivre? Ce n'est pas du tout possible. Donc, ça, c'est un vol. Et là, c'est clair que l'opinion internationale soit saisie et qu'on trouve une solution.
Pour Dingam Nadi Samson, l'une des victimes, cette décision vise à soumettre les enseignants et toutes leurs familles à une mort lente.
Dès 2014, on nous a contraints à démissionner dans la boîte privée. Aujourd'hui, si nous avons démissionné et que nous nous consacrons à travailler uniquement pour le compte de l'État, il n'y a pas de raison pour que l'État vienne encore nous demander de remboursement. Qu'est-ce qu'on a fait pour rembourser? D'ailleurs, il faut voir quelle activité nous avons pratiquée dans la boîte privée. On était des gardiens et si un fonctionnaire fonctionnaire de l'État qui se transforme en gardien de nuit pour subvenir aux besoins de sa famille. Même l'État djalien n'a pas honte. C'est une façon de nous tuer lentement, on ne comprend pas. Et en toute sincérité, même le moral là est complètement bas. Quel enseignant aura même le courage, par exemple, de travailler convenablement comme il a commencé?
Les membres de ce collectif qualifient le fait de couper un tiers de leur salaire mensuel pour rembourser ce qu'ils auraient perçu indûment d'une forme d'esclavage moderne et interpellent les associations pour la défense des droits de l'homme de les aider à entrer dans leurs droits. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24h sur 24, 93.1 FM.
La capitale camerounaise abrite du 17 au 18 mai prochain une conférence économique internationale sur les opportunités d'investissement au Cameroun. Plus de 500 participants y sont attendus. John Lindon a joint Marthe Angeline Mindia. Elle est directrice de l'Agence de promotion des investissements du Cameroun. Elle nous parle tout d'abord des atouts dont dispose ce pays.
Le Cameroun est connu comme un pays de paix. Nous avons un sous-sol qui est très riche. C'est d'ailleurs pour cette raison, à cause de cette diversité, qu'on nous appelle l'Afrique en miniature, toute l'Afrique dans un seul pays. Nous avons la deuxième réserve du monde en termes de forêt. Nous avons un sous-sol qui est très riche. Nous avons les mines, la bauxite, le fer. Malheureusement, toutes ces opportunités ne sont pas exploitées jusqu'à ce jour.
En dehors de ces opportunités que vous venez de présenter, qu'est-ce qui pousserait les investisseurs à venir au Cameroun plutôt que dans un autre pays de la sous-région Afrique centrale, par exemple?
D'abord, nous avons un marché environ de 300 millions d'habitants à cause justement du voisinage avec le Nigeria. Nous sommes un pays où les gens vivent en paix. Nous avons un secteur privé dynamique. Nous avons des grandes écoles, nous avons des universités, etc., etc. Nous pensons qu'à ce jour, tout est à faire au Cameroun. Nous sommes le seul pays de l'Afrique centrale qui partage les frontières avec les 6 autres pays de la CEMAC. Nous sommes un pays bilingue et aujourd'hui, nous avons engagé de grands chantiers, je dirais de grands projets structurants qui nous amènent à faire appel à des investisseurs étrangers pour nous accompagner dans cette vaste aventure.
Les lenteurs administratives et les chaînes de procédures font partie des obstacles qui très souvent découragent les investisseurs dans beaucoup de pays africains. Est-ce que les choses sont différentes au Cameroun?
Au Cameroun, on nous reproche justement des lenteurs dans les procédures administratives. Mais je crois que nous avons entamé beaucoup de réformes depuis quelques années. Nous avons mis sur place un dialogue avec le secteur privé. Plateforme qui est présidée par le premier ministre du gouvernement. Et aujourd'hui, nous commençons à voir les fruits de ces réformes. Tout n'est pas encore parfait, mais je crois que nous avançons dans le bon sens.
Voilà, c'était donc Marthe Angeline Mindia, directrice de l'Agence de promotion des investissements du Cameroun.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est la fin de cette édition présentée par moi-même, Bagassi Koura et Jean-Roger Billon. Production Lionel Gaïma, mise en onde John Allison. Ainsi va le monde aujourd'hui. Très bonne journée à tous. On maintient la conversation sur Facebook. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos. C'est 24h sur 24.